André du Moussaï au Cachin Oriental. J'ai réduit totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Combatie au Cachanga. Je pense qu'en se rencontrant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
C'est l'heure de parole aux auditeurs. Au centre de notre émission 100% interactive, la situation des droits de l'homme en RDC. Ce mercredi, la situation des droits de l'homme en RDC sera débattue à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette rencontre réunira le haut commissaire aux droits de l'homme, la délégation congolaise et les autres experts. Il faut dire que le récent rapport du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'il n'y a pas d'amélioration des droits de l'homme en RDC. Il faut signaler que depuis le mois de janvier dernier, il y a eu 3 autres rapports des experts indépendants des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RDC. Même constat, il n'y a pas eu de progrès depuis la présentation du rapport initial en mars 2009. La situation reste grave et les efforts du gouvernement en particulier sont très insuffisants. Par ailleurs, il y a eu quelques avancées, notamment l'opération Tolérance Zéro et la ratification des traités et promulgation des lois pour la promotion des droits de l'homme. Question pour lancer notre émission, quelle est la situation des droits de l'homme dans vos milieux? Que faut-il faire pour l'améliorer? Pour en parler, nous avons invité Maître Ruffin Louco, il est porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. Nous l'aurons au cours de cette émission. C'est une coutume qui relamise Nicole Yaka quant à la réalisation de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à ca@radiokaki.net.
Encore une fois, bonjour. Nous essayons de pouvoir contacter Maître Ruffin Louco, qui est porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains. Il avait donné son accord de principe, il a rassuré qu'il va participer à cette émission et nous continuons à essayer à pouvoir le contacter pour qu'il puisse être le répondant au cours de cette émission. Il faudrait rappeler qu'en moins de 3 mois, il y a eu plusieurs rapports sur la situation des droits de l'homme en RDC. Le rapport conjoint des experts des Nations Unies sur la situation en RDC, le rapport du haut commissaire des Nations Unies, il y a aussi un rapport sur de la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Eh bien, pour lancer notre émission d'aujourd'hui, je vous invite, chers auditeurs, à suivre cet entretien que nous avons eu avec le directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. En fait, ce bureau, c'est l'intégration du bureau du haut commissaire aux droits de l'homme au Congo, aussi la division des droits de l'homme de la MONUC plutôt. Et nous avons eu cet entretien avec Louis-Marie Boaka, qui nous donne le cadre et le contexte dans lequel ces rapports ont été élaborés, et aussi le contenu de ces rapports.
D'abord, le rapport du haut commissaire, qui est sorti du haut commissaire aux droits de l'homme, mais qui est basé sur les éléments fournis par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est l'intégration du bureau du haut commissaire aux droits de l'homme au Congo et de la division des droits de l'homme de la MONUC. Et à base de ces éléments, le haut commissaire a fait ses analyses et il a soumis, c'est madame la haut commissaire Marie Pillay, qui a soumis au conseil. Mais il y a une procédure. Avant la soumission de ce rapport au Conseil, le Haut Commissariat à Genève a transmis ce rapport au gouvernement par le biais de la représentation diplomatique du Congo à Genève. Et c'est nous qui sortons un rapport ici, nous le transmettons au gouvernement
directement à Kinshasa.
Kinshasa avant la publication.
Mais là-bas, c'est passé par le représentant de la RDC à Genève.
À Genève, oui, qui devait transmettre au gouvernement par la voie diplomatique. Et aussi, les rapporteurs spéciaux, ce sont des experts indépendants. Ce ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies, et ce sont des rapporteurs qui font partie de ce qu'on appelle la procédure spéciale, qui sont recommandés par le Conseil des droits de l'homme d'effectuer des visites dans les pays, mais sur invitation du gouvernement. Donc, ces rapporteurs ont reçu l'invitation du gouvernement, ils ont rencontré les autorités, tant civiles que militaires, ils ont rencontré la société civile, et toute personne qu'ils ont désiré rencontrer. Et avant de repartir, Ils ont donné la conclusion de leur observation et des recommandations au ministre des Tutelles à l'époque, le ministre des Droits humains.
Donc, avant que le Congo ne passe devant le Conseil des droits de l'homme de Genève, faut-il qu'il y ait des enquêtes accompagnées des rapports, comme c'est le cas des trois derniers rapports?
Ce n'est pas obligatoire, c'est compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays. Mais la procédure de passage devant le Conseil, c'est une procédure statutaire. On ne négocie pas ça. Tous les pays membres y passent sans exception et à base égale. Cette procédure examine la situation de tous les pays tous les 4 ans. Donc le Congo est passé en 2010, il faut attendre 2014 pour que le Congo repasse encore devant cette procédure.
Venons maintenant au rapport. Quelles sont les grandes lignes de ces trois rapports?
D'abord, je veux mentionner, ces rapporteurs spéciaux qui sont passés ici, ce ne sont pas des rapporteurs géographiques, donc ils ne sont pas désignés pour le Congo. Ce sont des rapporteurs thématiques qui travaillent sur des thèmes précis et qui sillonnent le monde entier sur l'invitation du gouvernement des pays membres des Nations Unies. Et ils ont été invités ici, ils ont fait leur observation. Mais en gros, si on fait le résumé de la substance de ces rapports, des rapports du commissaire, de ces rapporteurs spéciaux, et puis des rapports particuliers de la rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme, ces rapports ont parlé de la récurrence des cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Ils ont mentionné que certaines arrestations sont opérées à titre lucratif pour monnayer, pour soutirer de l'argent sur certaines personnes. Les rapports ont parlé un peu des conditions de détention, donc la surpopulation carcérale, le problème des décès.
Dans les prisons.
Dans les prisons, le problème d'évasion et aussi des tortures. Et les rapports, tous ces rapports ont parlé de violences sexuelles. Et c'était important. Ces rapports ont reconnu la politique de tolérance zéro qu'il faut soutenir. Et aussi, ces rapports mentionnent que bon nombre de victimes n'ont jamais été indemnisées, ni par les auteurs, ni par l'État qui est condamné in solidum avec ses auteurs. Et tous ces rapports ont parlé de la nécessité de développer l'espace démocratique, beaucoup d'ouverture avec les ONG des droits de l'homme. Ensuite, particulièrement de la lutte contre l'impunité liée aux violences sexuelles.
Qui sont les auteurs de ces violations?
Différents rapports ont été clairs. Ils ont parlé d'abord en ce qui concerne les atteintes aux droits de la vie. Ils ont mentionné les groupes armés étrangers, LRA, FDLR, les groupes armés nationaux, par exemple les groupes de milices, les Mai Mai, Parico et autres, et aussi les FRDC et PNC.
Est-ce qu'ils ont aussi sa liaison au service de sécurité comme la manière?
Exactement, tout ce qui concerne les arrestations, les tortures, ils ont mentionné tous les services qui sont concernés. Mais je vous dis que avant de quitter le pays, ces experts ont rendu compte à l'autorité de tutelle.
Et c'était Louis-Marie Bouaka, qui est le directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. En fait, il a donné un aperçu, le contenu même de ces rapports. Nous allons prendre tout de suite Badin Bandaka, Malunga Kinshasa et Kakuli de Kalimi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Badin.
Bonjour, c'est Badé Sako, étudiant à l'IFM Bandaka.
Merci pour cette précision, mais vous savez, dans Parole aux auditeurs, nous avons besoin que du prénom, mais merci quand même de donner plus de précision. Notre question d'aujourd'hui, quelle est la situation des droits de l'homme dans votre milieu à Bandaka?
Bien sûr, la situation vraiment n'est pas tout à fait bonne, mais je vais parler plus sur la généralité du pays.
Oui,
madame, en tout cas, le sujet est très intéressant. Moi, personnellement, lorsque je suis allé à Kisangani, arrivé à 16 km de Kisangani, à Ossio, il y a une barrière pour les taxes de vélo, pour la perception, bien sûr. Alors, là, on refusait catégoriquement les taxes de l'Équateur. C'est ça la violation des droits de l'homme. On ne peut pas parler. Quand on vous dit acheter, vous allez acheter. Que vous ayez ou pas la taxe de l'Équateur, vous allez acheter celle de la province orientale. Alors, pour la solution, je n'ai qu'une seule solution, de soutenir le chef de l'État pour la promulgation de la loi sur les rances zéro. Voilà.
Donc, vous dites qu'il faudrait nécessairement que le chef de l'État puisse promulguer quelle loi?
Non, j'ai dit je soutiens la tolérance
zéro.
À lui.
Ok. Oui. Merci beaucoup, Badin, à partir de Mbandaka. Nous prenons Malonga, Kinshasa. On vous écoute, Malonga.
Ok. Bonjour, ma sœur et tous les autres qui me suivent.
Mm-hmm.
Bon, en tout cas, c'est le sujet d'abord de choisir ce sujet, parce que ça nous concerne les habitants de cette terre.
Mm-hmm.
Mais selon moi, je crois que les droits de l'homme dans le monde entier, en tout cas, n'est pas respecté.
Mais pourquoi? Quelle est la situation dans votre quartier? Qu'est-ce que vous vivez ici à Kinshasa? N'entrons pas dans les généralités, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la RDC. Et quand vous êtes à Kinshasa, donnez-nous des exemples, des témoignages de Kinshasa.
Ok, l'exemple d'abord, c'est qu'ici, le matin, on a retrouvé un cas de mort, ici sur le croisement Bokassa Kabamba. Il y a une personne qui est morte là-bas,
mm-hmm.
Par qui? Ce sont des bandits.
Par des bandits.
Et on a respecté les droits de cette personne.
Mm-hmm. Et quelles sont les propositions, Malonga?
Oui, les
que propositions. Que faut-il faire pour promouvoir les droits de l'homme?
Ah, vous voyez, là où, si on veut respecter les droits de l'homme, il faut forcément renforcer la sécurité. Si toute la personne est sécurisée, en tout cas, son droit sera aussi respecté. Ici, à Kinshasa, d'abord, je parle que je suis ici à présent, que le gouvernement, et j'ai pris par son excellence le sujet de l'article, d'organiser le système de camouflage du militaire. Hein. Le militaire aussi peut s'habiller à venir ici pour attraper ces bandits. Pour attraper ces bandits. Parce que si un bandit voit un tenu militaire, il ne veut pas manifester son état de banditisme. Mais, s'il trouve les sujets, c'est tout pour lequel il passe vraiment, si vous êtes les journalistes, vous savez ce que vous voyez, vous n'arrivez pas à vous informer.
Oui, mais Malonga, il faudrait aussi signaler, vous pensez qu'il faudrait renforcer la sécurité, mais dans les rapports des experts, on a souligné qu'en fait, ce sont les auteurs de ces violations, sont des personnes, des militaires, sont des groupes armés, donc ces personnes, en fait, ce sont les personnes en fait qui sont censées protéger les populations qui commettent ces violations, Malonga.
Oui, il faut sécuriser à tout côté, hein, à tout côté, madame. Le côté civil, le côté militaire. Hein? Vous voyez que dans les camps militaires, il y a aussi les indisciplinés là-bas. Ils doivent subir aussi leur peine.
Mais
dans le cas des civils, on doit aussi leur poursuivre dans leur discipline. Mais ce sont les militaires qui sont chargés à instaurer donc la discipline et la paix.
C'est d'abord la police, hein. C'est d'abord la police. Oui, c'est d'abord la police qui assure la sécurité. Mais quand même, merci beaucoup, Malonga, pour vos propositions. C'est d'abord la police qui assure le maintien de l'ordre au niveau de la société. Et peut-être que la police, les militaires qui, eux, assurent en fait la protection du territoire au niveau des frontières peuvent venir en renfort à la police. Mais d'abord, la première mission de la police, c'est d'abord de protéger les biens, les civils, les personnes et leurs biens et assurer l'ordre. Nous prenons directement Kakouli, Kalemi. Bonjour Kakouli.
Bonjour Marie-Chantal Lumba, je salue tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, et dites-nous un peu, que faut-il faire pour améliorer la situation des droits de l'homme à Kalemi?
Ok, en effet, les droits de l'homme dans notre pays sont en souffrance. Je peux illustrer cela par quelques points. Au Congo, nous constatons que c'est la région de plus fort qui est toujours la meilleure.
Oui, Kakouli, parlons de Kalemi. Parlons de Kalemi, on ne va pas généraliser parce que vous vivez à Kalemi. C'est vrai que peut-être vous avez l'occasion d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe, mais restons d'abord à Kalemi. Qu'est-ce que vous avez constaté à Kalemi et quelles sont vos propositions pour améliorer la situation des droits de l'homme?
Ok, ce que nous constatons à Kalemi, est que si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez raison, votre droit sera toujours empiété. Qu'est-ce qu'on constate encore? Quelqu'un peut avoir des problèmes. Il est invité au tribunal. Il n'a pas encore son pari. Directement, on le met au cachot puisqu'il n'a pas d'argent. À cet effet, qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelqu'un, par exemple, a des problèmes, on l'accuse. Il est interpellé au tribunal. On doit d'abord l'entendre. C'est après d'avoir son pari qu'on peut maintenant juger s'il est coupable ou pas. S'il est coupable, là, on le met au cachot et il paye les droits exigés. Mais ce que nous voyons, c'est l'injustice qui bat son plein.
Vous parlez de l'injustice, mais à part le fait de pouvoir lutter contre l'impunité pour pouvoir promouvoir les droits de l'homme, est-ce que vous avez d'autres propositions?
En fait, j'ai voulu dire que les agents de la police et tous ceux qui sont là pour sécuriser la population, qu'ils soient impartiaux, qu'ils soient impartiaux. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il suit d'abord la logique. On est directement de le mettre au cachot, lui demander l'argent de ma collègue au sort. Voilà ce que j'ai voulu donner comme contribution.
Merci Kakouli. À partir de Kalemie, nous allons au café occidental, au centre du pays. Bonjour Célestin.
Bonjour.
Vous nous appelez de Mwambamboui. On vous écoute, Célestin.
Oui, je voulais un peu dire, en tout cas, les droits de l'homme ici, dans notre village, il n'y en a pas. En tout cas, vous voyez un petit policier qui vient, il arrête une personne, et puis si on le met dans un cachot, c'est effectivement, dans un cachot, normalement, il y a l'article qui dit que une personne ne peut pas faire 48 jours ou bien 48 heures dans un cachot. Mais ici, chez nous, on fait même 3 jours. En tout cas, ça nous fait très mal. Nous savons ce que le gouvernement nécessairement que nous avons ici. Et on ne peut pas vous appeler pour que vous puissiez être jugé. Non, jamais.
Et dites-nous un peu, qu'est-ce faudrait-il faire pour améliorer
le problème? Il fallait, madame, ceci. Qu'il y ait d'abord une suivi. Donc, si vous arrêtez quelqu'un, qu'il soit aussi jugé dans 2 jours, peut-être dans 1 heure peut-être. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un cachot sans toutefois le juger. Ça, c'est très grave. C'est très grave ici.
Oui. Donc, vous pensez qu'il faudrait former, renforcer les capacités de certains membres de la police ainsi que de la justice pour que être s'améliorer, que les droits de l'homme puissent s'améliorer chez vous à Mwambamboui, au Kasaï occidental. Merci beaucoup, Célestin, pour votre intervention. Avant de prendre Jean-Claude Katende, la réalisation me dit qu'elle essaie toujours de pouvoir contacter le porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains qui devait participer à cette émission, qui pourrait nous éclaircir sur la politique du ministère concernant la promotion des droits de l'homme en RDC. Nous continuons à essayer de pouvoir le contacter. Et puis après, nous allons prendre Jean-Claude Katende de la SADO.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet et à @radiookapi.net.
Vous suivez Radio Okapi dans son émission 100% interactive Parole aux auditeurs. Ce mercredi, nous nous intéressons sur la situation des droits de l'homme en RDC. Le récent rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'il n'y a pas d'amélioration des droits de l'homme en RDC. Il faut signaler que depuis le mois de janvier dernier, il y a eu 3 autres rapports des experts indépendants des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RDC. Même constat, il n'y a pas de progrès depuis la présentation du dernier rapport initial en mars 2009 et la situation reste grave. Les efforts du gouvernement en particulier sont très insuffisants. Par ailleurs, il y a eu quelques avancées, notamment l'opération Tolérance Zéro et la ratification des traités, ainsi que la promulgation des lois pour la promotion des droits de l'homme. La
situation des droits de l'homme en RDC sera débattue à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette rencontre va réunir le haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, la délégation congolaise et les autres experts. Et deux questions pour lancer notre débat d'aujourd'hui. Quelle est la situation des droits de l'homme dans vos milieux? Que faut-il faire pour l'améliorer? Si vous voulez participer en direct, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800, le 081-99-77-800, ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiotapi.net. Nous avons Jean-Claude Katende, il est de l'ASADO. En fait, l'ASADO, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale congolaise, bien sûr, qui s'occupe en fait de la défense et de la promotion des droits de l'homme. Bonjour Jean-Claude Katende.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Une question assez banale qui pourra essayer de pouvoir recadrer nos débats, c'est de savoir qu'est-ce qu'est vraiment la violation des droits de l'homme. Qui peut violer les droits de l'homme?
Merci madame pour la question. Je pense que la violation des droits de l'homme, c'est en fait toute atteinte qui peut être portée aux droits reconnu à un citoyen dans un pays donné par les institutions publiques. Ici, les institutions publiques, il faut le voir dans le sens le plus large. Mmh. Il faut prendre en compte notamment tous les fonctionnaires, tous les préposés de l'État, mais il faut aller aussi jusqu'aux enseignants qui sont dans le système d'enseignement public.
Donc, en bref, il n'y a que l'État qui peut violer les droits de l'homme.
Voilà, il n'y a que l'État qui peut violer les droits de l'homme, les autres citoyens commettent des infractions qui relèvent du droit commun.
Donc si par exemple il y a une bagarre entre deux personnes, ce n'est pas une violation des droits de l'homme?
Non, ça relève du droit commun ça.
Bon, vous êtes sur le terrain, vous connaissez la situation des droits de l'homme en RDC, il y a eu plusieurs rapports. En fait, votre réaction par rapport à tous ces rapports sur la situation des droits de l'homme en RDC, selon ces rapports, en tout cas, il n'y a pas eu une amélioration. Votre réaction?
Disons que nous sommes tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite dans le dernier rapport qui a été publié par la haut-commissaire aux droits de l'homme. Et cela confirme les différents rapports que la ZADO a déjà publiés sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pas seulement la ZADO, il faut prendre aussi les autres organisations. Je parle d'abord des organisations nationales qui travaillent sur la question. Donc la situation, elle n'est pas très bonne. Le rapport récent, c'est tout simplement une goutte d'eau qui vient de se verser dans le verre. Qui était déjà rempli, qui voulait déborder. Et donc, il n'y a pas tellement d'amélioration. Même quand on parle de l'opération Tolérance Zéro, on se demande quels sont les résultats de cette opération dans la mesure où elle a abouti à beaucoup de violations des droits de l'homme, non seulement en ce qui concerne les magistrats qui ont été révoqués irrégulièrement, mais aussi en ce qui concerne les Kulula. La ZADO n'appuie pas les pratiques de ces jeunes gens qui sont en fait des pratiques qui ne sont pas admissibles dans un État démocratique. Mais nous pensons que quand on organise des procès pour les juger, ils doivent bénéficier de toutes les garanties qui sont en fait fixées par la loi. Au-delà de tout ça, il faut dire aussi qu'il y a eu certaines personnalités qui ont été poursuivies, après relâchées, ils ont obtenu la liberté provisoire. Mais je pense qu'il relève du devoir du ministère de la Justice d'informer régulièrement les citoyens sur l'avancement de ces dossiers, parce qu'il y en a dont on n'entend plus parler. Et donc, pour nous, on souhaite bien que cette opération préserve les droits de l'homme. Parce que si on l'a fait en violant les droits des citoyens, elle ne sert à rien.
Oui, alors on peut comprendre que pour vous, les efforts du gouvernement ne sont pas suffisants et vous êtes sur terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait nécessairement, à part informer la population, comme vous l'avez dit, de l'évolution de certains dossiers qui pourraient montrer en fait que effectivement nous sommes sur la voie de pouvoir arriver à une tolérance zéro dans la violation des droits de l'homme. Quelles sont les autres propositions que vous pouvez faire?
La première proposition que je fais, il faudra que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage de manière très forte dans la lutte contre l'impunité. Il faut vraiment que tous les fonctionnaires qui se compromettent en violant les droits reconnus aux citoyens congolais, notamment les policiers, les militaires, les agents des services de sécurité, ainsi que d'autres, qui sont dénoncés dans les différents rapports, soit arrêtés, jugés et éventuellement condamnés. Ça, ça va être un signal très fort pour que les choses ne se répètent plus. Deuxièmement, il faudra qu'on assure une certaine protection par des lois aux défenseurs des droits de l'homme. On travaille dans une situation d'insécurité où on n'est pas protégé, alors que le travail que nous faisons, c'est un travail important pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Je crois qu'en ce moment-là, s'il y a une loi qui protège les militants des droits de l'homme, nous allons travailler dans une situation plus sécurisante et je pense que nous pouvons faire un travail appréciable. La troisième proposition, il faudra que l'État s'associe avec les ONG pour informer régulièrement les citoyens sur leurs droits, les sensibiliser, éventuellement mettre en place un système où les citoyens peuvent avoir accès facilement pour dénoncer tous les abus de droits de l'homme qui se commettent. Vous avez suivi ce qui se passe à Kalemi, ce qui se passe dans un village là, je crois, dans la province. Au Kasaï occidental. Bon, ce qui se passe dans les provinces, c'est ce qui se passe aussi tous les jours ici à Kinshasa, où il y a toutes les institutions publiques.
Donc,
si ça se fait à Kinshasa, donc on ne sait pas ce qui se passe dans les provinces, ça doit être très grave.
Oui, Jean-Claude, on vous garde en ligne le temps de prendre Pierrot de Kananga, aussi Charles de Lubumbashi. On commence par Pierrot. Bonjour, Pierrot. Pierrot, nous l'avons perdu. Pierrot, bonjour Charles.
Bonjour madame.
Oui, de Lubumbashi, quelle est la situation des droits de l'homme, sans oublier qu'à la fin, bien sûr, de votre intervention, n'oubliez pas de donner quelques propositions pour améliorer cette situation.
Oui madame, c'est une situation catastrophique à Lubumbashi parce que mon intervention passe des volets. Il y a d'abord le problème des autorités, le problème du trafic d'influence. C'est le chef de l'État lui-même qui a promulgué la tolérance de l'homme. Les choses graves, c'est sa famille appelée FP pour les commerces mortels, la famille présidentielle qui fait rage à Lubumbashi.
Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Qu'est-ce qu'elle fait en fait, sa famille?
Mais la famille, c'est la tante paternelle, puisse donner l'ordre à l'auditeur supérieur et l'autre là va directement tourner sur l'auditeur.
N'oubliez pas, Charles, qu'on va un peu s'abstenir de citer les noms des personnes ici parce que, en fait, ces personnes, juste de la présomption d'innocence, donc vous pouvez donner des témoignages sans pour autant citer les noms des personnes.
Je ne vais pas citer les noms, madame. Et l'autre, là, va immédiatement donner l'ordre à Lubumbashi. Que vous ayez raison ou pas, que vous ayez commis une infraction ou pas, on vous garde en prison pendant 2 ou 3 mois en guise de, à la volonté de la soi-disant tante madame.
Oui.
Le deuxième point, c'est le problème de l'OPJ sur place. Il suffit seulement d'avoir un cousin au village qui n'a pas d'emploi et vous l'amenez ici, vous le nommez au PJ, qui ne connaît pas les lois, il ne connaît quoi que ce soit, il vous fait payer des amendes transactionnelles sans pour autant avoir commis une infraction quelconque. Un problème de dette que vous avez reconnu et vous avez terminé le problème là, on vous fait payer les amendes là sans aucune méthode. Donc nous constatons ici que beaucoup des OPJ ne sont pas formés, ne sont pas à la hauteur de traiter les problèmes.
Oui, et Charles, quelles sont les propositions pour améliorer la situation des droits de l'homme à Lubumbashi?
D'abord, premièrement, mes propositions sont celles-ci. D'abord, qu'on fasse la part des choses. Les services de sécurité comme là ne doivent pas se mixer de problèmes de couple, problèmes de conflits parcellaires. Et tous les deux, on peut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un au préjudice sans qu'il ne connaisse même ce qu'il est en train de faire.
Oui, en tout cas, merci beaucoup Charles pour votre intervention. Vous pensez qu'il faut recadrer en fait les fonctions ou bien les responsabilités de chaque service, notamment de la NER, mais aussi vous pensez qu'il faudrait mettre fin à ce trafic d'influence et aussi renforcer les capacités des personnes qui sont en charge dans ces services de sécurité et aussi mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Merci Charles pour votre intervention. Nous avons pu recontacter Pierrot. Vous êtes en ligne, Pierrot?
Oui, effectivement.
Pierrot, à partir de Kananga, quelles sont vos propositions pour l'amélioration des droits de l'homme?
Avant que je puisse parler d'une certaine proposition, je voudrais juste faire mention d'une situation qui s'est passée ici à Kananga une fois. Vous savez que la constitution congolaise prévoit une arrestation pendant 48 heures pendant que les dossiers...
La détention pendant 48 heures.
Pour c'est pas moi, pour tout citoyen. Mais ici sur place, il y a une situation qui s'est déroulée, selon laquelle un groupe de messieurs était arrêté au bureau 2 de la police, mais pendant leur arrestation, les dossiers semblaient les opposer au gouverneur de province. Pendant qu'on essuyait le dossier, le gouverneur n'était pas sur place. La justice était vraiment tenue d'attendre jusqu'au moment où le gouverneur sera sur place. Et cela a fait qu'on puisse garder ces gens au cachet de la police pendant plus d'une semaine.
Alors, peut-être que leur suite était à craindre. Est-ce que vous allez demander quelles sont les raisons pour lesquelles on a dû garder ces personnes au cachot?
Je ne sais pas si la loi prévoit d'autres exceptions qui peuvent faire en sorte qu'on puisse garder quelqu'un pendant plus d'une semaine au cachot sans les transférer au parquet ou aux autres instances compétentes. Mais moi, je me dis que si on se réfère vraiment à la Constitution, il n'y avait pas d'autres dispositions qu'on pouvait évoquer là-bas. On ne pouvait que laisser remettre en liberté ces gens ou les libérer ou les transférer aux instances compétentes. Mais ici, on a pu attendre jusqu'au moment où le gouvernement est arrivé sur place en province. Plus d'une semaine déjà passée, ces gens ont pu croquer dans ces cachots. Alors, ce n'est pas la situation qui se passe sur place. Apparemment, c'est comme si la justice est devenue appartenant à
un groupe d'intérêt. Et dites-nous un peu, que faut-il faire pour améliorer les droits de l'homme, par exemple, à Kananga? Quelles sont vos propositions?
Moi, je me dis qu'il faut que la justice puisse jouer son rôle correctement, c'est-à-dire qu'elle demeure indépendante, au lieu de commencer à avoir une forme de parti pris, certaines craintes, là où il ne faut pas en avoir. Il faut que les instances judiciaires puissent vraiment être indépendantes des autorités politiques pour éviter que des pareilles choses ne puissent se répéter.
Vous parlez de séparation du pouvoir, vous parlez de renforcement des capacités. Merci beaucoup, Pierrot. À partir de Kananga, Kasai Occidental, nous prenons le dernier intervenant de cette série. Il s'agit du député national Emery Okundji. Bonjour, monsieur Okundji.
Bonjour, madame.
Oui, à ce niveau du débat, quelle est votre contribution? Que faut-il faire pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC?
Premièrement, il faudrait, madame, que nous puissions respecter les textes légaux que nous avons, les textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Madame, si vous prenez ne fût-ce que la Constitution qui est la loi fondamentale, vous remarquerez que cette Constitution répartit les missions de chaque service, de chaque institution. Mais le problème se pose au niveau de l'application stricte de des lois que nous avons en République démocratique du Congo, madame. Regardez par exemple à ce qui concerne la police et l'armée. D'ailleurs, aujourd'hui, chez moi, dans mon territoire de Lubepo, à Tchoumbe précisément, vous remarquerez que l'auditorat militaire, l'auditeur militaire garnison de Lodja, envoie des militaires pour des affaires purement civiles, de quoi sans raison valable, à Tchoumbe, madame, ils sont là, par exemple, plus de 15 jours qu'ils sont là, ils ont érigé des barrières, ils arrêtent toutes les personnes qui viennent en vélo, ils doivent payer les amendes, ils arrêtent les mamans, ils arrêtent, bref, des civils. Et pourtant, au niveau de la Constitution, lorsque vous regardez la mission allouée à l'armée, ce n'est pas ça, madame. Donc, il y a le non-respect des textes légaux. Il y a l'impunité qui règne en maître. Il faut mettre fin à l'impunité, madame. Et mettre fin aussi à cette tendance à instaurer en République démocratique du Congo la classe des intouchables. Il y a un manque cruel de volonté d'appliquer la politique dite de la tolérance zéro. Si chacun de nous respecte, madame, les textes légaux, eh bien, le problème ne se posera pas.
Oui, monsieur le député, selon vous, vous êtes député national. Quel est le rôle alors du député national? Quel est le rôle que peut jouer un député national dans la promotion des droits de l'homme?
Eh bien, madame, c'est de légiférer en rapport avec les besoins de la société. Et c'est de contrôler, madame. Et lorsque nous contrôlons, nous devons aussi sanctionner. Mais je venais de vous donner, par exemple, l'exemple des soldats de l'auditorat militaire qui sont à Tchoumbe. Mais madame, j'ai fait mon travail, j'ai touché presque toutes les autorités compétentes concernées. Mais personne n'a réagi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, madame, ces militaires sont à Tchoumbe. Hier, le lieutenant qui conduit ces militaires a même autorisé à ce qu'on tire sur un agent des droits de l'homme, mais ces subalternes n'ont pas obtempéré, madame. Donc le problème, c'est qu'on donne l'impression que le pays n'est pas gouverné. Même chose s'est passée à Kolé, où les policiers ont violé, ont assassiné, ont tué, madame, et pourtant, les députés de Kolé ne cessaient de sonner la sonnette, de tirer la sonnette d'alarme, madame.
Oui.
On ne l'a pas compris à temps.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur Emeki Okundji, pour votre intervention, vos témoignages et votre rapport à cette émission sur les droits de l'homme. Nous avons vraiment souhaité que le porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains soit vraiment dans notre studio, bien sûr, au bout du fil. Peut-être qu'il nous aurait donné d'autres informations concernant la situation à Tchoumbe. Peut-être que encore les autorités de ce côté-là sont encore en réunion pour trouver des solutions à ce problème-là. Mais nous continuons à pouvoir essayer de contacter monsieur Maître Ruffin Aluko pour qu'il puisse donner en fait la politique du ministère concernant ce genre de dossier. Merci encore une fois, honorable, pour votre intervention. Nous allons prendre Guy de Lubumbashi tout juste après cette petite virgule, sans oublier que Jean-Claude Katende de l'Assado est toujours en ligne. Nous allons le récupérer tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Avant de donner la parole à Guy de Lubumbashi, qui est déjà en ligne, nous reprenons Jean-Claude Katende de la SADO. J'espère que vous êtes toujours là, monsieur Katende. Oui, en fait, on voudrait un peu savoir, vous avez suivi toutes ces déclarations, les témoignages, les avis, même des propositions de nos auditeurs. On voudrait savoir quel est le rôle que peut jouer à ce moment-ci une ONG de défense de droits de l'homme, à part informer la population, sensibiliser la population sur les droits de l'homme. Parce que on a l'impression qu'il y a des lois, on a l'impression qu'on a lancé la tolérance, l'opération tolérance zéro, mais en fait ces lois ne sont pas appliquées et la tolérance zéro c'est pour certaines catégories de personnes. Que peuvent faire les défenseurs des droits de l'homme pour promouvoir les droits de l'homme dans ce cas-là?
Merci pour la question, madame. Je pense que pour ce qui concerne les organisations de droits de l'homme, particulièrement l'ASADO, c'est vrai que nous faisons la promotion des droits de l'homme, mais nous faisons aussi la protection des droits de l'homme. Il y a beaucoup de citoyens qui sont arrêtés ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Ce que l'ASADO fait, quand elle est saisie par les familles, c'est d'entreprendre des démarches auprès des institutions concernées pour que les droits de ces personnes soient respectés, notamment en ce qui concerne la garde à vue, et aussi en ce qui concerne la conduite de la personne vers son juge naturel.
Mm-hmm.
Et quand la personne est déjà devant son juge, la SADO met à sa disposition des avocats pour les défendre. Et ici, je peux donner l'exemple de M. Louyer, qui est très connu ici, c'est un leader politique dont le dossier a été suivi par la SADO jusqu'à son acquittement. Et son acquittement a été pour nous une grande victoire, parce que c'est en fait un procès historique où le tribunal a pu acquitter un opposant politique qui a été poursuivi par les institutions de la République pour avoir organisé une marche qui du tout n'était pas illégale, mais elle a été considérée comme telle.
Mm-hmm.
Et avec l'assistance de la ZADO, la personne a été acquittée.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est un travail que nous ne rendons pas souvent public, mais qui est fait régulièrement pour que les droits des personnes soient protégés.
Mm-hmm.
Et que les personnes se sentent assistées, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que dans notre société, pour consulter un avocat, les citoyens doivent dépenser beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Et beaucoup n'en ont pas. Mm-hmm. Beaucoup n'en ont pas. Et donc, la ZADO essaye de contribuer à la protection des droits des citoyens en faisant ce travail.
Mm-hmm.
Mais il faut dire aussi que tous les rapports que nous produisons sont utilisés par les instances internationales pour faire le suivi de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Mmh.
Parce que comme vous le savez, le Congo ne veut pas du tout aujourd'hui qu'on désigne un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et donc pour que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe sur la situation des droits de l'homme, il est aussi important que les ONG locales qui sont au parfum de ce qui se passe tous les jours dans nos milieux fassent des rapports. Et mmh. ces rapports sont très instructifs. Et même quand vous lisez le rapport qui venait d'être publié, il y a beaucoup d'informations qui ont été publiées par les ONG locales.
Mmh.
Et ça, c'est une très bonne chose pour que la situation des droits de l'homme au pays soit connu de toutes les instances nationales et internationales. Il faut savoir aussi que chez nous, nous n'avons pas une commission nationale de droits de l'homme.
Mmh.
Donc, ce sont les ONG qui essayent d'assurer sans souper ce rôle-là en attendant que la commission soit mise en place.
Mais,
donc, au-delà des sensibilisations, des dénonciations, il y a aussi cet aspect du travail qui n'est pas très connu, mais que les ONG sont en train de faire au quotidien.
Oui, mais concernant la commission nationale des droits de l'homme, mais quand même, il y a déjà des textes qui permettent à cette commission de fonctionner.
Non, mais les textes ne sont pas encore votés, sont en discussion.
Mmh. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour votre intervention à cette émission. Nous parlons de la situation des droits de l'homme, surtout comment faire pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Nous revenons à Guy de Lubumbashi. Bonjour, Guy.
Bonjour, merci.
Oui, Guy, on vous écoute. Que faut-il faire pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC?
Bon, avant d'abord de chercher comment améliorer la situation des droits de l'homme à Lubumbashi, j'aimerais d'abord épingler un fait là, concernant les droits de l'homme ici à Lubumbashi.
Mm-hmm. Ça est bref quand même.
Oui, je pense qu'il est, c'est un droit à tout Congolais de s'informer dans le pays comme sur le plan international.
Mm-hmm.
Mais pour moi, je trouve que c'est une violation quand le gouvernement coupe le signal de la RFI à tous les 65 millions d'habitants de la RDC. C'est une grande violation aussi.
Mmh.
Donc, bon, il faut que le gouvernement se mette quand même à sa place. Nous sommes appelés un pays démocratique. Que ça ne soit pas seulement des façades, que ça se pratique aussi. Et pour moi, c'est les ONG là, les activistes des droits de l'homme, qui peuvent aussi prendre des mesures pour que cette situation soit décantée. Vraiment, c'est une grande violation aussi.
Oui,
65 millions d'habitants.
Oui, mais il faudrait savoir que les ONG forment un groupe de pression. Elles peuvent tellement faire des pressions sur le gouvernement, mais il revient au gouvernement de prendre la dernière décision. Ça, il faudrait pas l'oublier. Guy, mais allons-y directement sur les propositions que vous avez pour améliorer en fait la situation des droits de l'homme en RDC.
C'est ça, pour moi, vraiment, je ne demande pas à toutes les ONG de faire des groupes de pression, non. Ils savent ce qu'ils font, ils savent leur travail, ils savent leurs attributions. Ils font quand même le tout pour que cette situation soit remédiée. Ce n'est pas possible, un adolescent qui grandit aujourd'hui en RDC, sans pourtant être informé sur le plan international. Ça, c'est
juste. Au-delà de la situation de RFI qui vous préoccupe vraiment, nous le sentons, quelles sont les autres propositions que vous pouvez faire? Parce que les violations ne sont pas que ça, il y a d'autres choses.
Notre pays est appelé la République démocratique du Congo. Donc, c'est cette démocratie-là qui est dans la nomination de notre pays. Ce n'est pas seulement des façades, mais cette démocratie est aussi réaliste dans tous les domaines. C'est inconcevable. 65 millions d'habitants être privés.
Oui. Merci beaucoup, Guy. À partir de Lubumbashi, vous êtes vraiment préoccupé par la suspension des émissions de RFI en RDC. Vous pensez aussi que les ONG devaient faire plus que ce qu'ils font pour l'instant, que ces ONG plutôt puissent faire plus que ce qu'elles font pour l'instant. Nous prenons d'abord Floribert Tchebeya de La Voix des Sans-Voix. Bonjour Floribert.
Bonjour.
La Voix des Sans-Voix, c'est aussi une ONG qui de la défense, pour la défense, la promotion des droits de l'homme. Dites-nous un peu au regard de tous ces rapports qu'il y a eu sur la RDC. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'aujourd'hui, il y a une grande discussion au niveau du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève, où la situation des droits de l'homme sera débattue. Il y a une grande rencontre où il y aura le haut commissaire des droits de l'homme, la délégation congolaise et les autres experts qui vont vraiment plancher sur la situation des droits de l'homme. Dites-nous un peu, quelle est votre réaction?
Bon, la réaction, c'est de dire que nous constatons que c'est une bonne chose que cela, au niveau international, que les choses commencent à bouger un peu, à la lumière de toutes les informations alarmantes que les ONG des droits humains, à travers les provinces de la République démocratique du Congo, ne cessent de produire pour justement attirer l'attention de la communauté nationale et internationale pour les efforts qui devraient être faits pour la mise en œuvre des engagements tant nationaux qu'internationaux de la République démocratique du Congo par rapport à la situation des droits humains.
Et au regard de cette rencontre, de cette discussion qui peut-être a déjà commencé à Genève, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre?
Nous pensons qu'il serait bon de constater d'une manière objective et courageusement que la situation des droits humains ne s'est pas améliorée en République démocratique du Congo après les élections de 2006. Donc il manque toujours une volonté de mise en œuvre des engagements de la République démocratique du Congo pour la promotion et la protection des droits humains. Ce qui est important, c'est qu'on en arrive à aider la République démocratique du Congo pour finalement qu'elle aille de l'avant, qu'elle remplisse, qu'elle coopère pleinement avec le mécanisme des Nations Unies sur les droits humains. En notre sens, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup de dénonciations, il y a eu beaucoup de rencontres. Vous vous rappelez, en août 2009, il s'est tenu à Kinshasa une conférence nationale sur les droits humains. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive au niveau des Nations Unies, avec la présence du représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo et des experts qui ont assuré la situation des droits humains, qu'on arrive à mettre sur pied mécanisme de surveillance sur la situation des droits humains pour aider peut-être le gouvernement de la République démocratique du Congo et les acteurs non étatiques pour que la situation s'améliore enfin.
Oui, Floribert, on vous garde en ligne. Vous allez rester avec nous pour le reste de notre émission. Le temps de prendre aussi Madame Aurore de Carrière, chef de mission Avocats sans frontières, et aussi Moïse de Kananga.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Madame Aurore de Carrière.
Bonjour.
Comme je l'ai dit, vous êtes chef de mission Avocats sans frontières. Vous êtes sur terrain, vous connaissez bien la situation des droits de l'homme en RDC, mais selon vos enquêtes, vos recherches, vos conclusions, vos recommandations, que faut-il faire pour améliorer ces situations?
Mais disons que la question des droits de l'homme en RDC est très très vaste. parce que les droits de l'homme, ici, ça concerne toute une série de droits qui vont principalement pour les Congolais du droit à la sécurité, à l'intégrité physique, au droit à la sécurité de la propriété. Ça se décline sous toutes sortes de formes. Et avant tout, pour un État, garantir les droits de l'homme pour ses citoyens, c'est avoir la force de protéger les plus faibles. Et ici au Congo, toute la difficulté est là, on n'a pas les moyens de protéger les plus faibles qui subissent des brimades, des menaces et qui sont empêchés de jouir de leurs droits.
Il faudrait bien commencer quelque part, selon vous.
Eh bien, nous commençons par le secteur de la justice, qui pour nous est celui qui permettra de garantir les droits aux citoyens, mais c'est à l'État de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et commencer par respecter les conventions internationales qu'il signe et qu'il engage pour pouvoir les mettre en œuvre partout dans le pays et au service de tous et des plus faibles en particulier.
Mais entre-temps, quelles sont vos actions sur ce terrain pour promouvoir les droits de l'homme?
Bon, les actions d'Avocats sans frontières sur le terrain ne sont pas des actions de dénonciation, donc nous ne sommes pas dans la même logique que beaucoup d'ONG des droits de l'homme qui dénoncent des situations. Nous sommes une ONG internationale neutre qui est ici pour construire de nouvelles choses et aider les acteurs judiciaires à se renforcer pour mieux travailler. Et notre secteur d'intervention, c'est la justice, en renforçant les professionnels et en permettant aux personnes les plus vulnérables d'avoir accès à la connaissance de la justice.
Concrètement, donc, vous organisez des chambres foraines, vous avez des cliniques juridiques où les personnes lésées peuvent consulter gratuitement.
Voilà, donc on a des programmes qui visent à faciliter l'accès à la justice pour les personnes. Alors ça commence par le conseil juridique de première ligne, c'est-à-dire les boutiques de droit où vous pouvez venir poser votre problème, un avocat va répondre à vos questions sans prendre le dossier pour lui. Si vous avez besoin d'un avocat, il vous désignera l'endroit où en trouver un. On soutient aussi les chambres foraines des tribunaux lorsqu'ils doivent se déplacer à l'intérieur du pays dans les zones les plus éloignées pour que les personnes des zones reculées puissent avoir accès à la justice et ne pas rester coupées du monde. On soutient aussi les personnes qui sont en détention dans les prisons centrales du pays en leur permettant d'avoir accès à un avocat gratuit pour le temps de leur détention.
Merci beaucoup Madame Aurore de Carrière, vous êtes chef de mission Avocats sans frontières, vous avez expliqué un peu votre vision pour lutter pour améliorer plutôt la promotion des droits de l'homme en RDC. Encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. Nous prenons directement Moïse de Kananga. Bonjour Moïse.
Bonjour, on a Chantal. Comment ça va?
Oui, ça va Moïse. Nous vous écoutons. Quelles sont vos propositions?
Et avant de proposer, je voudrais seulement faire une remarque à la radio Capi. Nous aimons bien. Je crois que vous êtes seulement déjà fait cette remarque pour montrer que la radio Capi devait être une des radios, étant donné qu'elle est neutre, aider les Congolais à pouvoir connaître leurs droits et dénoncer les capacités du gouvernement en place de pouvoir sécuriser la population dans tous les domaines de la vie. La radio Capi n'a jamais eu un éditorial, comme on voit toutes les grandes radios dans le monde. Quel est le point de vue de la radio Capi sur d'abord ce rapport-là, ou ce multiple de rapports? Ça, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite.
Non, mais il faudrait savoir que la radio Capi, je ne peux pas me donner cette responsabilité là de pouvoir vous répondre directement. Nous avons un service. Vous pouvez écrire à Radio Capi www.radiocapi.net, vous donner votre avis, on pourra vous répondre. Mais n'oubliez pas que nous sommes une radio d'actualité et nous donnons la parole à tout le monde, même la personne qui est accusée. Nous faisons l'effort pour qu'il y ait l'équilibre et l'impartialité dans toutes nos émissions, dans toutes les informations que nous donnons. Non, mais n'empêche que si vous avez des suggestions, vous avez des propositions, vous pouvez toujours nous écrire par exemple à pa@radiocapi.net et nous allons directement transmettre votre mail aux autorités qui se feront un plaisir de pouvoir vous répondre. Mais Moïse, revenons à notre sujet sur la promotion des droits de l'homme. Quelles sont vos propositions?
Oui, d'abord la promotion des droits de l'homme, c'est l'État qui est le garant de la nation et de la sécurité de la population. Ils sont les premiers démissionnaires. Parce que sur toute la ligne, dans tous les domaines, comme la dame que vous avez interrogée tout à l'heure venait de le dire, ça commence par les autorités elles-mêmes qui encouragent cela. Parce que la loi n'est pas mise en application. Et en plus de cela, La plupart de tous ceux qui commettent toutes ces choses sont toujours impunis. La fameuse tolérance zéro, ce n'est que verbal pour les plus faibles, parce que les hommes de poids qui sont les plus grands que nous ne sont jamais inquiétés.
Non, mais quand même, il y a des cas, hein, il y a des personnes assez qui occupent certains rangs qui ont été mises en prison. Mais comme l'a dit un des auditeurs, il faudrait qu'il y ait une qu'on nous informe sur l'évolution de certains cas, ce qui permettra en fait de montrer comment la tolérance zéro est en train d'évoluer. Mais Moïse, des propositions.
Oui, des propositions. Dans un pays où 80% de la population est analphabète, pourquoi faut-il que la population puisse connaître ses propres droits et les défendre? C'est difficile. Mais tant qu'il y a ce devoir de pouvoir aider la population à pouvoir avoir une instruction saine, avoir et organiser des émissions à la radio nationale qui n'existe pratiquement pas, ne le fait pas. On passe essentiellement à nommer de la musique avec des femmes qui dansent nuit à longueur de journée. Ceux-là même, nous payons les impôts, toute la République, les opérateurs économiques, le petit peuple, les travailleurs, quand ils payent leurs impôts, pas de publicité à la télévision. Mais quand il faut leur donner de l'eau à boire, de l'électricité, et ceci, cela, l'éducation, lorsqu'il y a tellement de petits critiques, le gouvernement en place n'accepte pas les critiques et il ne commence pas à brimer.
En tout cas,
il ne commence pas à brimer. Comment voulez-vous que la population s'exprime?
Mais Moïse, nous voulons plus des propositions.
Les propositions, c'est que la communauté internationale, là où le gouvernement congolais s'est affiché aussi pour défendre les droits des citoyens, ne le fait pas, qui commence à poser des sanctions aux autorités. Et puis en plus, moi je conseille à mes frères congolais qu'ils fassent faire des efforts, faire confiance à nos jeunes avocats et juges pour que chacun puisse s'en approprier. Mais là aussi, les Congolais qui n'ont pas droit à pouvoir même s'approcher d'un avocat, qui sont dans l'arrière-pays, comment vont-ils y arriver?
Merci beaucoup.
La plupart.
Je vous rappelle que vous suivez Radio Capi dans son émission, la deuxième partie de votre émission 100% interactive Parole aux auditeurs. Ce mercredi, nous nous intéressons de la situation des droits de l'homme en RDC. Le récent rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'il n'y a pas d'amélioration des droits de l'homme en RDC. Il faut signaler que depuis le mois de janvier dernier, il y a eu 3 autres rapports des experts indépendants des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RDC. Même constat, il n'y a pas eu de progrès depuis la présentation du rapport initial en mars 2009 et la situation reste grave. Les efforts du gouvernement en particulier sont très insuffisants. Par ailleurs, il y a quelques avancées, notamment le lancement d'opération Tolérance Zéro et la ratification des traités ainsi que la promulgation des lois pour la promotion des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme en RDC et sera peut-être même a déjà commencé, cette séance a commencé, elle sera débattue à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et cette rencontre réunira le haut commissaire des droits de l'homme, la délégation congolaise et les autres experts. 2 questions pour lancer notre débat qui a commencé il y a cela plus d'une heure. Quelle est la situation des droits de l'homme dans vos milieux? Que faut-il faire pour l'améliorer? Si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Nous avons gardé en ligne Floribert Chebeya de La Voix des Sans Voix, une ONG de défense et de promotion des droits de l'homme. Encore une fois, Floribert, j'espère que vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Oui, Floribert, nous avons constaté, par exemple, pour des cas où des auteurs des violations des droits humains sont condamnés par la justice, on leur demande souvent de payer certaines sommes des dommages et intérêts. Et c'est souvent des frais qui sont tellement élevés, on croirait même que ces personnes ne pourront pas dédommager les victimes. Est-ce que dans ce sens-là, il y a des actions qui sont menées par les ONG de défense des droits de l'homme pour voir ce qui est fait de ce côté-là?
Oui, cette question nous intéresse parce que elle participe à la préoccupation de lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Ça, c'est un principe de droit simple et élémentaire. Quand vous êtes condamné au niveau, n'est-ce pas, des juridictions, en tant que vous avez été reconnu violateur, n'est-ce pas, et qu'on vous impose des dommages et intérêts, je pense que c'est vraiment un mécanisme universel normal qui est connu au niveau de l'administration de la justice dans le monde entier. Donc, peu importe, n'est-ce pas, la qualité de l'auteur de l'infraction. Alors, moi, je voudrais plutôt m'intéresser côté quand l'État, la République démocratique du Congo est condamné par sa propre justice comme auteur, n'est-ce pas, de violation des droits humains ou même des crimes. Alors, de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Il y a de nombreux citoyens et citoyennes de la République démocratique du Congo qui sont pleins et qui ont gagné des procès où l'État congolais a été condamné, mais les réparations, les dédommagements ne suivent pas. Et là, c'est vraiment c'est une violation des droits, n'est-ce pas, des victimes. Je crois que on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, une justice qui ne conduit pas aussi à la réalisation, n'est-ce pas, des dédommagements, des réparations prononcées par les instances judiciaires.
Floribert, vous restez en ligne. On prend Joe qui est à Londres. Bonjour, Joe.
Bonjour, madame.
Oui, Joe, dites-nous un peu, que faut-il faire pour améliorer, selon vous, la situation des droits de l'homme en RDC?
Ben, pour cela, madame, faudrait d'abord voir le départ avant d'arriver à savoir ce qu'il faudrait faire. Parce qu'au pays, la situation des droits de l'homme est catastrophique. Ici, madame, je ne voudrais pas parler de l'Est du pays, car c'est une situation d'exception. Mais je parlerai plutôt de Kinshasa, où je suis souvent et d'où je viens. À Kinshasa, la situation est déplorable. Quand la police de l'IPK se permet de détenir quelqu'un pendant plus d'un mois, c'est dommage. Et plus encore, madame, à l'ANR, il y a peu, un citoyen a été arrêté à la place de son cousin qui était recherché. Détenu pendant plus de 4 mois, il a eu, comme je dirais plutôt, la vie sauve grâce au MG des droits de l'homme, surtout à la section des droits de l'homme de la Monique, et il y a eu RFI qui avait fait du bruit à ses propos. Et sans visite, même pas la visite de ses avocats. Parce que pourquoi? Parce que l'ANR dit que c'est la présidence de la République. Mais et pourtant, le chef de l'État, tout cela se fait derrière son dos. Il n'est pas au courant. Comment on peut détenir un citoyen, lui interdire le droit de défense, chasser son avocat, je vous dis, chasser, et dire que eux, ils dépendent de la présidence. Est-ce que tout cela, le chef de l'État le sait? Et pour améliorer la situation dans notre pays, madame, il faudrait d'abord voir ce genre de choses. Il faudrait que ces gens sachent qu'ils ne sont pas à l'écart de loi du pays. Parce que si on leur permet de faire ça, qu'est-ce que notre délégation à Genève va défendre? Rien. Rien.
Mais quelles sont vos propositions pour ce cas-là? Peut-être que ces personnes avaient des bonnes raisons de pouvoir détenir cette personne-là. Bon, on savait que c'était c'est en fait Joe. Quelles sont en fait les propositions que vous faites pour promouvoir les droits de l'homme?
Moi, la première des choses, c'est que la mentalité doit changer. Si nous changeons des mentalités et que nous nous disions que nous sommes effectivement dans un état de droit où chaque citoyen doit savoir que si je fais ça, cela peut se retourner contre moi malgré que je suis une autorité quelconque. Ce sera à partir de là que l'on saura faire de notre pays un pays démocratique qui respecte les droits de tout un chacun. Et c'est à partir de là que je dirai, madame, que nous aurons une nation où on peut accepter avoir et respecter le droit de l'homme comme il se doit.
Merci beaucoup, Joe, pour votre intervention, votre témoignage concernant la situation des droits de l'homme que vous avez vécu, que vous connaissez ici à Kinshasa. Merci pour votre intervention. Nous prenons le dernier auditeur de cette émission. Il s'agit de Maître Florent, à partir de Kinshasa. Bonjour, Maître Florent.
Bonjour.
Oui, Maître Florent, quelles sont vos propositions pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme?
Oui, il faudrait d'abord que notre Parlement puisse voter la loi qui va régir la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une loi qui prenne, Et depuis lors, on l'a mis même quoi dans le calendrier pour que ça passe à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est qu'il vient déjà du Sénat et qui est adopté par le Sénat.
On devrait vérifier, peut-être que ça fait partie des arriérés législatifs.
Ça fait partie des arriérés, mais ça doit être repris dans le calendrier de la session. Deuxièmement, c'est le compte de l'impunité dans notre pays. Vous savez, notre pays est classé parmi les pays les plus insécurisés du monde. Nous sommes même derrière l'Afghanistan. Tout simplement parce que lorsqu'il y a quelque chose qui se commet, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de punition. Nous apprenons beaucoup de gens qui tuent, les militaires qui violent. Mais vous ne verrez pas une enquête vraiment sérieuse qui aboutit à l'arrestation de ceux qui ont violé, ceux qui ont tué et leur condamnation. Généralement, lorsqu'on se réfère à la hiérarchie militaire, nous ne nous sommes pas en connaissance, nous sommes pas de ce cas-là. C'est vraiment malheureux. La deuxième chose, ce que nous souhaiterions, c'est que il faudrait que les recommandations qui sont faites par les ONG des droits de l'homme lors de la Conférence nationale des droits de l'homme, que ces recommandations soient prises en compte par le gouvernement. Notre gouvernement est tout à fait sourd à toutes les recommandations. Lorsque nous regardons tous les rapports qui ont été faits depuis plus de 10 ans, c'est comme si notre gouvernement ne les a jamais lus, n'a aucune volonté politique de les mettre en pratique. Et puis dernière chose, nous ne pouvons pas accepter que dans un pays comme le nôtre, que nous puissions avoir un ministère des droits humains qui est dans le gouvernement. Nous devons plutôt avoir une commission des droits de l'homme qui est en dehors du gouvernement, parce qu'une commission des droits de l'homme est tout à fait indépendante du gouvernement et va facilement critiquer le gouvernement, parce que c'est le gouvernement, ce sont les institutions publiques qui sont les premiers violateurs des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas avoir au sein du gouvernement les droits humains. Les droits humains ne va pas contrôler en même temps critiquer le fonctionnement du gouvernement.
Oui, merci. Merci beaucoup, Florent. Vous êtes le dernier auditeur. Vous n'avez pas suffisamment de temps, mais quand même, vous avez fait des propositions et vous avez aussi donné votre point de vue concernant cette situation. Pour clôturer cette émission, nous prenons Floribert Chebeya de La Voix des Sans-Voix. Monsieur Floribert Chebeya, pour conclure, au regard de la situation des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour l'améliorer?
Non, je pense, comme le précédent auditeur l'a dit, il y a eu pas mal de rapports, il y a eu pas mal de recommandations. Je pense, comme ça se discute en ce moment, à la 13e session du Conseil des droits humains à Genève, où tous les acteurs et actrices des droits concernés sont réunis, notamment le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les différents experts, les membres de la 13e session, le gouvernement congolais, les ONG, etc. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'arriver à mettre sur pied un mécanisme de surveillance, de suivi des recommandations et d'assistance pour aider les gouvernements de la République démocratique du Congo. Alors là, il faut pas qu'il puisse y avoir des complicités négatives entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les groupes africains qui ne veulent plus qu'il puisse y avoir un mécanisme de surveillance pour aider justement la République démocratique du Congo à faire face pleinement à ses engagements nationaux et internationaux des droits humains.
Merci beaucoup, Floribert. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Nous la clôturons avec vous. Vous êtes de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Nous regrettons que Maître Ruffin Louko, qui est le porte-parole du ministère de la Justice et des Droits Humains, n'ait pas pu participer à cette émission. Et pourtant, il avait promis, il aurait donné l'orientation et même la politique du ministère de la Justice et des Droits Humains concernant la situation des droits de l'homme.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Nous disons également merci aux auditeurs pour leurs interventions. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis religieusement. Demain, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de parole aux auditeurs. Le week-end dernier, il s'est tenu à Kinshasa une rencontre des ministres de l'éducation des pays membres de la SADC. Les participants ont recommandé à la RDC de renforcer son système éducatif. Question, selon vous, faut-il oui ou non revoir le système éducatif congolais? Réalisez dès à présent, nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci beaucoup.